En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, le 14 juin 2006, l'Institut de France a remis trois prestigieux prix issus de la fondation Simone et Sino Del Duca. Cette fondation, qui porte le nom d'un grand éditeur, récompense tous les ans trois domaines, l'archéologie, la littérature et enfin les sciences. Et c'est sur ce dernier thème que nous vous proposons de nous pencher aujourd'hui. Le prix scientifique de la fondation Simone et Sino Del Duca récompense en effet les recherches sur le cancer, la leucémie, les maladies cardiovasculaires, ou encore les handicaps physiques et mentaux. Pour cette année 2006, ce sont les travaux du docteur Geneviève Almouzni sur l'assemblage du matériel génétique qui ont été couronnés. En d'autres termes, comment émerge progressivement la complexité des gènes? Car avant de naître homme, l'embryon de départ subit bien sûr une multitude de transformations. Alors quels sont ces mécanismes? Comment sont-ils activés? Geneviève Almouzni nous présente un exposé passionnant. La fondation Simone et Sino Del Duca a également tenu à offrir trois subventions de chacune 100 000 euros à trois autres chercheurs. Anne Ekman tout d'abord, qui travaille sur le guidage des vaisseaux sanguins au cours du développement embryonnaire. Également Éric Honoré, qui étudie la physiologie des canaux ioniques dans le système vasculaire. Et enfin, Bruno Bontempi, qui se penche depuis plusieurs années maintenant sur l'organisation du cerveau et le stockage de nos souvenirs. Nous vous proposons d'écouter tous ces exposés, en débutant tout d'abord par la communication de Geneviève Almouzni. Tous les lauréats sont présentés par le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Nicole Ledoirin.
Madame Geneviève Almouzni a 46 ans, c'est une ancienne élève de l'École normale supérieure, titulaire de l'agrégation de biochimie et nutrition depuis 1984. Elle s'est tournée immédiatement, après son agrégation, vers la recherche en préparant un DEA de microbiologie et de virologie à l'Institut Pasteur. Elle a ensuite obtenu un doctorat de microbiologie à l'Université de Paris 6 en 1988. Puis elle a été recrutée comme chargée de recherche de deuxième classe en 1989. Elle a effectué plusieurs stages dans le laboratoire du professeur Wolf au NIH à Bethesda et a travaillé sous la direction, d'abord comme chercheur, puis comme postdoc, du docteur Méchali. Et c'est là qu'elle s'est initiée au développement, à la biologie du développement et à un matériel d'étude qu'elle a utilisé par la suite abondamment, qui est le Xenop. Mais je rappelle que Monsieur Méchali a été intronisé comme membre de l'Académie des sciences hier. Je dois dire que le parcours et le cas de Madame Almouzni illustrent parfaitement le succès de la politique d'intégration de jeunes équipes qui a été menée par le directeur scientifique de l'Institut Curie, Monsieur Louvard. En effet, Madame Almouzni y a été recrutée en 1994 comme leader d'un groupe junior. Elle est maintenant directeur de recherche de première classe et directeur d'une unité mixte de recherche Institut Curie CNRS, dont la thématique est la dynamique nucléaire et la plasticité du génome. Son intérêt scientifique, comme vous allez le voir par la présentation qu'elle va vous faire, concerne l'organisation du génome dans le noyau cellulaire des eucaryotes, le maintien de son intégrité lors de la division et aussi lorsque la cellule est soumise à des stress génotoxiques. Elle s'intéresse aussi à un mécanisme fondamental dans les organismes multicellulaires, c'est-à-dire comment les cellules sont capables de se diversifier pour remplir les fonctions qu'elles ont à remplir dans l'organisme complexe des êtres multicellulaires, alors que ces cellules possèdent les mêmes gènes. Ceci est resté pendant très longtemps une énigme, et les travaux de Madame Almouzni, entre autres, mais d'une manière tout à fait claire, dès 1991, ont montré que la configuration de l'ADN sous forme de chromatine à l'intérieur du noyau cellulaire joue un rôle extrêmement important dans la lecture du génome, c'est-à-dire dans l'activité différentielle des gènes. Ces mécanismes que l'on appelle aujourd'hui l'épigénèse ou mécanisme épigénétique sont maintenant au programme de la biologie moléculaire du 21e siècle pour lequel ils constituent un chantier extrêmement important. Madame Al-Mousni a commencé à travailler sur le xénope. En effet, les chromosomes du xénope sont très accessibles à l'intérieur de l'œuf et ensuite dans les premiers blastomères. Mais aujourd'hui, elle a créé d'autres systèmes et elle profite des possibilités qui sont offertes à l'Institut Curie, où il y a une collaboration étroite entre des physiciens, des mathématiciens et des biologistes pour mettre au point un système qui permet de suivre l'assemblage de la chromatine, c'est-à-dire l'association de l'ADN avec des protéines qui font partie de ce qu'on appelle l'ensemble chromatinien, et ceci en temps réel grâce à en utilisant des molécules uniques qui sont marquées par des composés fluorescents, ceci grâce à des techniques d'imagerie extrêmement sophistiquées. En un mot, je dois dire que Madame Al-Mousni est une chercheuse extrêmement brillante, tout à fait dynamique, et qu'elle travaille sur un sujet d'une actualité de tout premier plan. Je vais donc donner la parole à Madame Al-Mousni.
Le titre de ma présentation s'intitulait « Dynamique nucléaire et plasticité du génome ». C'est effectivement le nom de l'unité que je dirige actuellement à l'Institut Curie. Et dans le cadre de la présentation que je vais faire aujourd'hui, je voudrais illustrer juste certains aspects de mon travail qui touchent à l'épigénétique et la dynamique de la chromatine. Alors épigénétique, c'est un peu un mot qui fâche parce que tout le monde se dit « Oh, c'est quoi ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'espère qu'après ma présentation, vous aurez une idée un petit peu plus claire de ce qu'on peut mettre derrière ce terme. Alors, épigénétique, de quoi il s'agit? C'est un mot qui a son histoire et comme l'a rappelé Nicole Ledouarin, c'est un terme qui trouve sa base dans la théorie de l'épigénèse. Cette théorie, elle s'oppose à la préformation avec l'idée d'un homonculus. Et en fait, c'est un concept en biologie du développement qui permet d'expliquer comment la complexité émerge de façon progressive. Et c'est un concept très ancien, parce qu'Aristote a posé le problème, déjà dans l'Antiquité, sans répondre à la question, et c'est resté une question qui s'est débattue jusqu'au XVIIIe siècle, et encore aujourd'hui, on n'a pas fini de comprendre. Dans le sperme, vous avez un mini-Apollon, et puis, s'il ne fait que grandir et que toute la complexité était là, rien n'a changé entre le début et la fin, on est juste plus grand. Et ça, on a du mal à y croire, donc je crois que la théorie de l'épigénèse, on a vite fait de l'adopter. Alors, une histoire et des définitions qui évoluent dans le temps. Alors là, je veux contraster deux types de définitions. La première, qui concerne la véritable apparition du terme épigénétique en tant que tel, qui a été amenée par Conrad Al Waddington. Et pour lui, il s'agit des interactions des gènes avec leur environnement qui permettent de transformer le phénotype en être vivant. C'est une définition avec un sens très large et finalement très œcuménique. Beaucoup de personnes travaillant dans le domaine du développement vont pouvoir s'y rattacher assez aisément. Mais aujourd'hui, on a une définition un petit peu plus restreinte qui dérive de la vision qu'a eue Robin Holliday. Ce sont les changements d'expression des gènes qui sont héritables au niveau somatique. Donc là, on a un aspect héritabilité et qui n'implique pas de changement dans la séquence de l'ADN. Donc là, on va au-delà de l'aspect molécule d'ADN. Donc, en gros, très schématiquement, on peut dire comment faire plus qu'une seule chose avec son ADN et s'en souvenir. Et ça, c'est quand même assez important. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'épigénétique, on a fait une brochure avec le réseau européen dans lequel je suis impliquée, qui a été traduite dans pas mal de langues. Elle sort ce mois-ci de façon gratuite avec Pour la Science, mais elle sera accessible sur le web pour tout le monde, si vous avez envie d'en savoir plus, parce que c'est un domaine qui touche à énormément d'éléments qui sont proches de nous dans la vie. Les cellules souches, par exemple, des phénomènes comme l'empreinte parentale, l'inactivation du chromosome X, et j'en passe un certain nombre. Alors, un autre aspect que je voulais souligner avec l'épigénétique, c'est son caractère réversible. Et là, c'est extrêmement bien illustré avec l'exemple de reprogrammation nucléaire qui a pu être réalisé sur l'amphibien, le modèle sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui a été vraiment beaucoup utilisé par John Gurdon. Et là, vous voyez un clonage réussi de Xenop où on a pu obtenir, à partir d'une cellule somatique qui a été retransplantée dans un œuf énucléé, une série de grenouilles tout à fait identiques en prenant ce type de cellules. Alors maintenant, vous avez tous en tête l'idée de Dolly, que bon nombre de gens cherchent à cloner leur chat. Et puis, il peut être extrêmement intéressant de reprogrammer ses propres cellules dans le contexte de l'idée d'une thérapie pour du remplacement de tissus lésés. Alors maintenant, si on essaye de réfléchir à tout ça, les grandes questions qui se posent sont quelles sont finalement les bases moléculaires pour générer ces mécanismes et gérer ces paramètres épigénétiques. Alors à ce niveau, je voudrais donc rappeler que dans le noyau de la cellule, ce qu'on trouve c'est de la chromatine. Et la chromatine, c'est des protéines et de l'ADN. On a focalisé notre attention pendant un long temps sur l'ADN comme vecteur de l'information génétique. Mais les protéines qui sont là aussi, en interaction avec l'ADN, ont une importance tout à fait cruciale. Il s'agit des histones, elles sont au nombre de 4, plus l'histone de lien, H3H4, H2H2B, un composant majeur. Et de cette manière-là, on assure la compaction de l'ADN dans le noyau. Donc 2 mètres d'ADN dans un noyau de quelques micromètres de diamètre, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à réaliser. Et en même temps, il s'agit de pouvoir accéder aux séquences d'ADN et que ces structures soient dynamiques pour répondre à toutes les demandes qui vont se faire au cours du développement ou en réponse à tous les événements qui vont solliciter la cellule, genre des stress génotoxiques qui nous ont intéressés en particulier. Mais outre l'aspect compaction, c'est également une source supplémentaire d'informations. En effet, on ajoute ici un autre élément, et je vais revenir dessus, qui peut contribuer à cette utilisation différentielle de l'information génétique et qui garantit ainsi une diversité fonctionnelle dans différentes cellules. Donc c'est un petit peu comme si on avait un disque avec plusieurs pistes et on peut choisir de lire les pistes qui nous intéressent. Dans le contexte d'un concert donné. Alors, le point que je voudrais développer, c'est comment on va établir ce type d'organisation et comment on peut l'hériter, et si elle est stable ou non. Alors, le dessin illustre justement le fait qu'au-delà de l'hélice, de l'ADN, on a cette organisation avec une architecture d'ordre supérieur qui permet la compaction de l'ADN dans le noyau. Donc, on a un repliement qui implique plusieurs niveaux. Donc, vous voyez l'ADN. Le nucléosome, cette balle de tennis, qui est l'unité fondamentale de base, qui se répète régulièrement, se replie pour former la fibre de chromatine, qui elle-même va se compacter et former des régions particulières dans le noyau. Donc voilà un peu de quoi il s'agit quand on parle de compaction de l'ADN sous forme de chromatine dans le noyau. Alors, si on reprend l'unité de base, on a la double hélice. Voilà le nucléosome. Il comprend, on l'appelle la particule cœur ici, puisque je n'ai pas mis les régions linker. On a sur cette particule cœur 146 paires de bases d'ADN qui s'enroulent autour de l'octamère d'histone avec au centre le tétramère H3H4 flanqué de deux dimères H2A-H2B. Alors c'est une source d'information, pas simplement parce que il y a des histones, mais parce que ces histones peuvent être modifiées. Et elles peuvent être modifiées avec de façon post-traductionnelle, avec toute une série d'étiquettes différentes, l'acétylation, la méthylation sur différents résidus, la phosphorylation, l'ubiquitination. On génère ainsi, et ça se produit sur les extrémités N et C terminales, même dans certaines parties cœur aussi, des histones. On génère ainsi un large répertoire qui peut, sous forme de combinaison, avec le fait que les histones existent aussi sous forme de différents variants, donc H3 existe sous forme de variants particuliers au niveau des régions centromériques, on a un variant particulier de H2A qui s'appelle H2AX, qui est modifié dans le cadre de dommages de l'ADN. Donc on a ici la capacité de générer une information, d'où l'idée de cette hypothèse du code histone, qui peut être utilisé de deux façons, soit de manière dans une réponse rapide pour une signalisation, soit de manière épigénétique pour véhiculer une information qui pourra être reproduite au cours des divisions. Alors, on peut penser, dans le cadre du code histone, que des protéines sont capables de lire et d'interpréter ces informations de façon à générer une action physiologique. Et un exemple que je voulais juste relever, qui a servi un petit peu de paradigme pour le code histone, c'est l'exemple de la protéine HP1, une protéine d'hétérochromatine constitutive qui reconnaît la marque de triméthylation sur la lysine 9 de H3. Ça paraît très spécifique, mais c'est un point sur lequel beaucoup de gens se sont intéressés. Alors maintenant, si on reprend notre hélice, Il s'agit effectivement de compacter, mais aussi d'être dynamique pour pouvoir justement permettre, pendant le développement des changements, pendant le cycle cellulaire, tous les événements qui doivent se produire, tels la réplication de l'ADN, toutes les transactions qui vont toucher à l'ADN. Et donc, on a là une espèce de défi à relever, parce qu'il s'agit à la fois d'être dynamique, mais aussi stable. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour hériter et maintenir quelque chose de cet ordre, où l'information génétique et épigénétique doivent être ensemble maintenues de façon coordonnée. Et donc, c'est un petit peu ces questions qu'on a essayé de poser depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, je voudrais juste vous illustrer le point concernant l'organisation de la sous-unité fondamentale, le nucléosome. Alors, au niveau du nucléosome, la dynamique de la chromatine implique trois classes de facteurs. Des facteurs de remodelage qu'on considère comme étant capables de rendre les nucléosomes plus ou moins transparents. Et à ce moment-là, les protéines qui veulent interagir vont pouvoir le faire. Ensuite, il y a des facteurs qui interagissent avec les histones, qui m'ont beaucoup intéressée, qui intéressaient personne pendant très longtemps. Ce sont les chaperons d'histones. Ce sont des protéines accompagnatrices. Et je pense que les accompagnateurs sont souvent très importants. Et enfin, les facteurs de modification des histones, qui vont être évidemment éminemment critiques dans le cadre de cette hypothèse du code histone pour imposer ces combinaisons de modifications dans le contexte que j'ai précisé tout à l'heure. Donc on a une dynamique qui va impliquer un assemblage, mettre en place la structure, un désassemblage, la défaire, et des mouvements qui peuvent faire bouger les choses, glisser le long de l'ADN. Alors si on se concentre maintenant sur ces chaperons, ces chaperons, ils vont être particulièrement intéressants dans le contexte de l'assemblage de la chromatine, où là, il s'agit d'assurer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le maintien de nucléosomes spécifiques dans un domaine en trois dimensions dans le noyau. Et tout événement de disruption, de déstabilisation, va nécessiter une restitution. Donc, ces événements de disruption évidents, la réplication, le passage de la fourche de réplication. Durant la transcription, il a été mis en évidence qu'il y avait une déstabilisation aussi des nucléosomes. Et pendant la réparation, un certain nombre de réarrangements étaient observés. Et bien évidemment, lors du développement, où il y a même des transitions extrêmes, avec un changement radical de la composition de la chromatine, quand on pense simplement à la spermatogénèse, où on remplace toutes les histones par des protamines. Alors, il s'agit de restituer fidèlement l'organisation avec les mêmes variants d'histones, la combinaison correcte de modifications, les protéines associées et la structure complexe dans le noyau. Donc, c'est pas une mince affaire. Et là-dedans, les chaperons d'histone ont un rôle clé. Alors, juste pour vous illustrer ces phénomènes de déstabilisation, vous avez ici une illustration du passage de la fourche de réplication. Donc, on avance, on va être en train de répliquer, et les nucléosomes qui sont en amont de la fourche sont déstabilisés. Et en aval, on doit réassembler. On a dupliqué le matériel, donc il s'agit d'une part de recycler les histones qui étaient présentes avant, mais aussi d'en amener d'autres, parce qu'on a beaucoup plus de matériel à assembler. Donc il va falloir aussi avoir un assemblage des nouveaux. Donc sur le brin antérograde, vous voyez la synthèse continue, et sur le brin rétrograde, vous voyez la synthèse discontinue. Mais dans les deux cas, il s'agira d'assembler les deux molécules naissantes. Dans le contexte de la réparation, on avait proposé ce modèle, en français je l'appelle Accède, Répare, Restitue, ou Access, Repair, Restore Model, où la même idée est à prendre en compte. On a un dommage dans l'ADN et il s'agit d'accéder au dommage pour que la machinerie de réparation puisse réparer le dommage. Ensuite, une fois que la réparation sur l'ADN est réalisée, on va vouloir restituer l'organisation telle qu'elle était initialement. En tout cas, c'est la question qu'on peut essayer de poser. Alors, comment assembler de la chromatine? De façon schématique, si on repart du début, on a de l'ADN, des histones. On va d'abord mettre en place les dimères H3-H4, ensuite les dimères H2-H2B, former la particule cœur, répéter les nucléosomes, replier et faire des domaines spécifiques. Donc, un bloc de base pour former un nucléosome. Des étapes clés dans l'assemblage des novos, avec des facteurs d'assemblage à cette étape, mais qui peuvent avoir un impact, même si je n'en parlerai pas aujourd'hui, au niveau de l'organisation de domaines spécifiques dans le noyau. Alors, le nucléosome, vous le voyez ici, de manière simplifiée, avec les chaperons d'histone qui interviennent pour faciliter la mise en place du dimère H3-H4 et la mise en place du dimère H2A-H2B. comment on a pu identifier des chaperons d'histone? Alors en fait, la stratégie qui a été utilisée s'appuyait sur l'utilisation d'extraits cellulaires bruts. Et nous, on a beaucoup utilisé les extraits d'œufs de Xénope. D'autres laboratoires ont ensuite, un peu sur la même idée, utilisé les embryons de drosophiles et puis aussi les extraits de cellules humaines. Maintenant, on utilise un petit peu les trois au laboratoire. Mais je voudrais juste souligner que les extraits d'œufs de Xénope, c'était aussi un système qui avait été développé de façon pionnière par Ron Lasky et puis bien développé par Marcel Méchali, chez qui j'ai appris à les faire. Sans mentionner que d'approcher la première fois les Xénopes avec Marcel, ça a été toute une aventure. Voilà. Alors, les chaperons d'histone, moi j'aimerais les présenter comme fonctionnant dans une chaîne d'assemblage pour déposer les histones. Alors, la définition, ce sont donc des protéines qui interagissent avec les histones, ce sont des accompagnateurs qui favorisent le transfert d'histones dans des réactions sans faire partie du produit final. Alors là, j'ai listé toute une série, il y en a bien plus, et je vais plus parler de ces trois-là, parce qu'ils travaillent de façon coordonnée. Et simplement pour dire, bon, toute une liste, on se dit, mais pourquoi tous ces chaperons, ils font tous la même chose, ils se répètent, quel est l'intérêt? En fait, non, on peut imaginer différentes fonctions. Une fonction de stockage, parce que les histones sont des petites protéines basiques, et elles sont jamais seules. Et donc, si on en a de trop, il est certainement pas bon qu'elles soient présentes sans être maintenues avec des complexes type chaperon. Enfin, quand elles se déplacent, qu'elles passent d'un endroit à un autre, cela se fait avec des donneurs et des accepteurs. Elles participent aussi à l'étape ultime, au niveau de l'ADN, formation du nucléosome, pour aider à déposer ces histones sur l'ADN, dans des régions spécialisées, potentiellement, pour déposer des variants d'histones. Donc là, une spécificité vis-à-vis du variant. Alors, si on considère CAF1... Oh, pardon. Je voulais juste rappeler que donc dans ce contexte, on peut voir ces chaperons d'histones comme une équipe. Là, une équipe de basket où les histones représentent la balle et la balle doit être passée, pas tomber par terre, sinon on a des problèmes. Alors, CAF, c'est un facteur d'assemblage particulier. Donc, il a été découvert initialement par Bruce Tillman et on a beaucoup collaboré aussi avec Bruce à Cold Spring Harbor. Pour comprendre comment il fonctionne, il est composé de trois sous-unités qui sont représentées ici. Mais sa particularité, c'est qu'il stimule la formation de nucléosomes de façon couplée à la synthèse d'ADN. Et donc ça, c'est tout à fait original. Et ça a une importance cruciale lors de la réplication, parce que ça permet de cibler les histones H3, H4 au niveau de la fourche de réplication, mais aussi lors de la réparation, type réparation par excision de nucléotides. Et dans les deux cas, on a pu montrer que le facteur qui établit ce lien, c'est un facteur bien connu de beaucoup de gens, qui s'appelle PCNA, pour Proliferating Cellular Nuclear Antigen, qui est impliqué dans la connexion au niveau des sites, ici de lésions, lors de la synthèse, ou ici lors de la réplication. Mais CAF1, on a donc appris pas mal de choses sur lui. Il nous a intéressé aussi dans son contexte d'une application avec un intérêt médical. Et ça, c'était possible parce qu'à l'Institut Curie, il y a une section médicale avec laquelle on peut interagir. Et on a pu montrer, donc ça c'est le travail de Sophie Polo, que avec un marquage qui permet de révéler la deuxième des sous-unités de CAF1, que dans des tissus malins, ici un cancer du sein, on a un marquage très net, on peut comparer ici à un autre marqueur de prolifération, KI67, qui nous a permis donc de proposer que CAF1 pouvait être utilisé comme marqueur de prolifération d'intérêt clinique dans le cancer du sein, et aujourd'hui on a pu l'élargir à d'autres types de cancers également. CAF est également important lors de la réponse au dommage, et je voudrais juste vous montrer une illustration dans les cellules. On peut irradier des cellules en mettant des filtres millipores juste au-dessus d'elles, de telle sorte que les dommages vont se faire de façon très localisée dans le noyau. À ce moment-là, vous pouvez visualiser les dommages ici avec des anticorps qui reconnaissent les dommages, ici cyclomidine, pyrimidine, dimers, et vous voyez que au niveau des sites de dommages, on a recruté la protéine, la grande sous-unité de CAF1, donc qui montre bien qu'elle va bien à l'endroit où elle est censée faire des choses en rapport avec la réparation. Donc, c'était pour vous montrer que in vivo, on a des éléments aussi favorisant cette interprétation d'un rôle de CAF dans la réparation. Donc, finalement, on peut considérer la formation du nucléosome par une voie couplée à la synthèse d'ADN qui utiliserait CAF1, comme je vous l'ai dit, lors de la réplication, à des sites de réparation. mais on a aussi découvert qu'il y avait des conditions où l'assemblage devait se faire en dehors de la synthèse d'ADN. Et là, un facteur particulier qui a été identifié dans ses fonctions par Dominique Régalet au laboratoire, un facteur qui s'appelle IRA. Et donc, le point, c'est maintenant de considérer aussi comment ce facteur-là intervient in vivo et dans quelle situation dans le développement ou des fonctions associées à la transcription, possiblement. Alors, un point qui a éclairé notre lanterne, c'est que chez la drosophile, le variant H3.3 de l'histone, qui est au cœur du nucléosome, est déposé indépendamment de la réplication de l'ADN. Donc, on a... ça a été montré par Steve Enikoff. On a aussi cet élément-là, que ce variant est enrichi dans les régions transcriptionnellement actives, donc un autre élément intriguant. On s'est donc interrogé, dans le contexte des variants de l'histone H3 chez les mammifères, où on sait qu'il y a également plusieurs isoformes. Il y a les variants réplicatifs, qu'on appelle H3.1 et H3.2, dont l'expression pique en phase S. Et il y a ces variants de remplacement, H3.3, qui sont pas très très différents au niveau séquence, mais dont l'expression est constitutive en phase quiescente, en phase G1, G2 et en phase S. Et un variant extrême qui est spécifiquement localisé au niveau des centromères. Alors la question qu'on s'est posée évidemment, est-ce que IRA pourrait être dédié à la déposition de H3.3 et CAF1 à H3.1? Et là, on a utilisé une approche biochimique en étiquetant les histones H3.1 et H3.3, en vérifiant qu'elles pouvaient être incorporées dans des chromosomes mitotiques. On a isolé les complexes et on a pu se rendre compte que dans le complexe isolé avec H3.1, on trouvait bel et bien CAF1, mais pas IRA. Et dans le complexe H3.3, on trouvait le complexe IRA. Donc ça, c'était très excitant. On avait deux types de complexes et ensuite on voulait tester leur activité d'assemblage dans des systèmes puissants. Pour ça, on utilise le Xenop, donc je reviens à lui et je ne peux pas m'empêcher de montrer ce film qui est toujours fascinant parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'être fasciné quand on voit sous nos yeux se diviser un embryon. Et donc, ces divisions que vous voyez, là, on s'arrête à la transition mid-blastuléenne, c'est le moment où le génome zygotique commence à être transcrit. Toutes ces divisions se font en s'appuyant sur du matériel qui a été accumulé pendant l'ovogénèse. Donc on a 12 cycles synchrones qui se font avec une quantité de matériel formidable qui permet d'avoir une source biochimique extrêmement intéressante et facile à manipuler. Donc en réalisant des extraits à partir des œufs, on peut les manipuler pour séparer les voies d'assemblage par des systèmes d'immunodéplétion spécifiques pour l'un des facteurs ou l'autre. Et ensuite, on va pouvoir rajouter des complexes. Et ce système, ce jeu de déplétion-complémentation, permet de tester les activités des facteurs d'intérêt. C'est ainsi qu'on a pu montrer qu'on avait des voies d'assemblage spécifiques pour chacun des variants d'histone, avec H3.1 couplé à la synthèse d'ADN qui utilise CAF1, et H3.3, indépendamment de la synthèse, via IRA. Donc maintenant, une autre question qui se pose à nous, c'est comment est-ce qu'on régule le flux d'histones? Elles sont synthétisées, mais il faut les utiliser au bon moment, pas en avoir trop. Et là, il y a un facteur particulièrement intéressant, dont on savait qu'il synergise avec CAF1 dans nos systèmes d'assemblage. Et on a essayé de tester comment il pouvait intervenir lorsqu'on perturbe le mécanisme de réplication de l'ADN. À ce moment-là, elles vont un peu se bousculer au portillon, les histones, on va continuer à en faire, et qu'est-ce qu'on fait de l'excès d'histone qui peut pas être incorporé? Et là, le travail réalisé au laboratoire en collaboration avec Jiří Bartek et puis principalement mené par Anya Groth montre que finalement on a un complexe en amont de CAF1 qui est un multichaperon qui peut tamponner les histones quand elles sont libres. Et donc, ils transfèrent les histones à CAF1, et lors de la réplication, tout va bien, on n'en a pas trop, il y a un flux continu. Maintenant, lorsqu'il y a un phénomène de blocage, on va arriver à saturer, puisqu'on n'arrive plus à faire rentrer les histones au niveau de la réplication. La chaîne d'assemblage et ses branchements, avec une équipe de chaperons d'histones qui ont des rôles distincts, CAF1 qui met en place des variants H3.1 de façon couplée à la synthèse d'ADN. On a là un marqueur de prolifération dont le rôle est important à prendre en considération dans le contexte du cancer, mais aussi dans le contexte du développement. Et on a vu lors du développement précoce chez le Xenop que l'interférence avec la fonction de CAF1 empêchait d'avancer dans les toutes premières étapes du développement. Le facteur IRA qui lui intervient pour la mise en place indépendante de la synthèse d'ADN pour les variants H3.3. Vraisemblablement pour boucher des brèches à des moments clés de la vie cellulaire lors de la transcription, du développement lors de la fécondation en particulier, où il y a des grands changements dans la réorganisation du génome, et ASF1, qui est un régulateur du flux d'histone, en tout cas dans le contexte que je vous ai décrit, pour H3.1, couplé à la réplication. Et donc lui, il va nous amener à nous poser des questions sur les points de surveillance et comment il peut essayer d'établir des liens avec les checkpoints, de façon à comprendre aussi comment, sachant qu'il y a trop d'histone, on continue pas non plus à progresser dans le cycle et la physiologie de la cellule peut ainsi être surveillée étroitement. Je vous remercie de votre attention.
Madame Aneckmann est la fille d'un immunologiste allemand bien connu et qu'elle a en quelque sorte été plongée très jeune dans le monde de la recherche, un peu comme Astérix dans la marmite de potions magiques. Elle a commencé par faire des études pour devenir vétérinaire, puis elle a décidé de s'orienter vers la recherche très rapidement et elle est allée à l'Institut Weizmann des sciences à Rehovot en Israël pour préparer un master de biologie moléculaire. Elle est ensuite venue en France pour y préparer une thèse. Elle a, au cours de la préparation de sa thèse, est clonée, et ceci, il s'agissait d'une première, deux récepteurs d'un facteur de croissance qui n'était pas encore identifié et qui s'est révélé par la suite être le vascular endothelial growth factor. Elle a fait cela chez l'oiseau et ces deux récepteurs sont maintenant appelés VEGFR1 et VEGFR2. Ils s'expriment respectivement sur les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins et celles des vaisseaux lymphatiques. Alors, ceci constituait un résultat très important parce que on savait à cette époque, dans les années 80, et en particulier grâce aux travaux du professeur Judah Folkman à Harvard, de Dan Rifkin à NYU et de d'autres, qu'il existait des facteurs de croissance spécifiques des vaisseaux sanguins, mais on n'était pas capable de les identifier. Et il est évident que l'existence de récepteurs tyrosine kinase qui étaient exprimés exclusivement sur des cellules endothéliales représentait une avancée intéressante. Cette découverte a été suivie, d'autres laboratoires, par l'isolement des mêmes récepteurs chez les mammifères, puis par la découverte du ligand, le VEGF, dont on sait qu'il s'agit maintenant, VEGF et VEGF récepteurs, d'un système de signalisation d'une importance extrêmement grande pour les problèmes de clinique, les problèmes de thérapeutique, puisque vous savez que ceci a permis d'utiliser, de préparer des produits, des médicaments anticancéreux. Mais la découverte de ces récepteurs lui a aussi permis de faire une autre trouvaille intéressante, qui a été de démontrer l'existence d'un précurseur commun chez l'embryon à la lignée sanguine et à la lignée endothéliale. En effet, les cellules mésodermiques qui s'invaginent au niveau de la partie postérieure de la ligne primitive expriment dans leur grande majorité le gène du récepteur VEGFR2. Si on isole ces cellules, ce qu'a fait Aneckmann, qu'on les cultive dans des conditions convenables, on démontre qu'elles ont la double potentialité de fournir à la fois la lignée sanguine et des colonies de cellules endothéliales selon l'environnement auquel elles sont soumises. Par conséquent, elle démontrait là, je dois dire pour la première fois, l'existence de ce précurseur qui avait été soupçonné dès les années 1920 par des histologistes, mais qui n'avait jamais pu être démontré. Et ceci a une importance très grande parce que on sait que ces précurseurs sont toujours en action dans la moelle osseuse chez l'adulte. Madame Aneckmann, maintenant directeur de recherche à l'INSERM, dirige depuis 1999 un groupe de recherche au Collège de France au sein de l'unité INSERM dirigée par le professeur Pierre Corvol. Elle a étendu d'une manière spectaculaire ses recherches au mécanisme de la vascularisation et de l'angiogénèse. Tout d'abord, elle s'est intéressée au problème de la différenciation des artères et des veines. On savait depuis les travaux de David Anderson, qui sont d'ailleurs des travaux récents, que les cellules endothéliales des artères se distinguent très tôt chez l'embryon de celles qui vont tapisser les veines. Et ceci parce qu'elles expriment, celles des artères expriment le gène de néphrine B2. Il existe donc une détermination génétique de ces vaisseaux. Cependant, en réalisant des inversions de flux sanguin dans les vaisseaux du sac vitellin chez l'embryon de poulet, Anegman et ses collaborateurs ont montré que les cellules endothéliales adoptent l'un ou l'autre phénotype, quelle que soit leur détermination génétique initiale, selon les forces hémodynamiques auxquelles elles sont soumises. Ainsi, il existe une considérable plasticité dans la détermination des caractères veineux ou artériels des vaisseaux. Un autre domaine intéressant de ces travaux concerne les relations qui existent entre le système nerveux et le système vasculaire. Les récepteurs à la neuropiline, NRP1 et NRP2, sont exprimés, et ceci a été démontré par Anegman et son groupe, non seulement dans les cellules neurales, comme on le pensait, mais aussi dans les cellules endothéliales, artérielles, veineuses et lymphatiques. Elle a pu montrer que NRP2 est indispensable à l'établissement du réseau lymphatique. Chez les souris qui sont déficientes dans ce récepteur, les réseaux lymphatiques ne se développent pas. De plus, une substance connue comme chémoattractant dans la croissance de certains neurones, comme les neurones commissuraux de la moelle épinière, la nétrine, agit aussi sur les cellules endothéliales lors de la vascularisation. Elle agit comme chémorépulsif. Ces observations récentes, totalement originales, sont le point de départ d'un programme de recherche de premier plan qui a le mérite d'éclairer d'un jour nouveau les mécanismes moléculaires qui président au développement des deux systèmes les plus ubiquitaires de l'organisme, les vaisseaux, le système vasculaire, et les nerfs. Je vais maintenant donner la parole à Madame Ekman qui va nous exposer ses travaux et son programme de recherche.
Je voudrais remercier très chaleureusement les membres du jury qui m'ont permis l'obtention de cette subvention. Donc les travaux effectués dans mon équipe sont centrés sur le développement des vaisseaux sanguins que vous connaissez tous. Alors comment est-ce qu'on génère ces vaisseaux sanguins ? Il faut d'abord, au cours du développement embryonnaire, spécifier les cellules constituant ces vaisseaux qui sont les précurseurs des cellules endothéliales ou angioblastes. Ces cellules s'agrègent ensuite en un réseau de capillaires, qu'on appelle le réseau vasculaire primaire, qui sont des capillaires de taille homogène, qui contiennent le sang, mais qui ne le transportent pas encore. Car ce réseau doit être mis en place avant les premiers battements du cœur, justement pour, une fois que le cœur se met à battre, accueillir le flux sanguin généré par les battements cardiaques. Très peu de temps après l'initiation des battements cardiaques, ce réseau vasculaire primaire est remodelé en un réseau qui ressemble beaucoup plus à ce que nous avons chez l'adulte, qui est un réseau constitué d'artères, de capillaires et de veines, qui assure maintenant la circulation. La dernière composante du système vasculaire chez l'adulte, le système lymphatique, se développe un petit peu plus tard par bourgeonnement de cellules endothéliales à partir de veines. Comme Madame Le Doirin vous a présenté, nos travaux se sont longuement intéressés à la spécification des précurseurs endothéliaux au cours du développement. Mais plus récemment, nous avons centré notre attention sur ce processus de remodelage du réseau vasculaire primaire en artères, capillaires et en veines. Nous regardons ce remodelage vasculaire chez différentes espèces, notamment chez l'embryon d'oiseau, car il s'agit d'un embryon relativement grand et qu'on peut aisément visualiser en état vivant. Ici, en l'occurrence, vous voyez un embryon au stade du réseau vasculaire primaire qui est mort et qui a été coloré au moyen d'un anticorps qui reconnaît spécifiquement les cellules endothéliales de l'embryon. Et vous voyez ici la tête de l'embryon, ici son cœur, il est encore bilatéral et ne s'est pas encore mis à battre. Il va faire ceci d'ici quelques heures. Une fois qu'il va se mettre à battre, il va transporter le sang par ses deux artères ici dans le sac vitellin dans lequel vous voyez donc le réseau vasculaire primaire constitué de capillaires de taille homogène. Et c'est ici que les échanges en oxygène et en nutriments s'effectueront. Maintenant, une fois que le cœur se met à battre, seulement 24 heures après ce stade, vous voyez que ce réseau vasculaire maintenant s'est remodelé de façon spectaculaire. On reconnaît toujours l'embryon ici, le cœur qui bat maintenant, et le sang qui est transporté par les artères, les capillaires, et retourné au cœur par les deux veines situées ici. C'est donc un processus spectaculaire sur lequel il faut retenir trois caractéristiques principales. La première est que c'est un processus extrêmement rapide qui s'effectue en seulement 24 heures, aussi bien chez l'embryon d'oiseau que chez l'embryon de souris. Le deuxième, c'est que c'est un processus très complexe qui implique de très nombreux gènes. Et si il y a des mutations dans ces très nombreux gènes, il s'enchaîne une létalité embryonnaire. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à établir une circulation embryonnaire, vous êtes mort. Donc un processus vital. Et c'est pour ça aussi que nous nous sommes intéressés à ce processus. La troisième caractéristique, et sur laquelle je voulais insister plus particulièrement aujourd'hui, est que ce remodelage donne naissance à un système extrêmement stéréotypé. C'est-à-dire que malgré la grande complexité et la très grande ramification de ces vaisseaux, ils sont toujours situés au même endroit, d'un embryon à l'autre, et même entre différentes espèces. Comment peut-on donc développer un système aussi stéréotypé et complexe? Quels sont les mécanismes impliqués dans ce processus? Quand on réfléchit quels sont les mécanismes que nous connaissons pour positionner les vaisseaux, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'oxygène. L'oxygène ou le manque d'oxygène constitue un puissant attracteur pour les vaisseaux sanguins. Elles vont toujours se diriger vers les régions où il n'y a pas d'oxygène. Et on connaît les mécanismes moléculaires sous-jacents à celui-ci. Ils impliquent la production de molécules pro-angiogéniques qui vont attirer les vaisseaux. Le deuxième mécanisme qui est certainement très important, c'est le flux sanguin. Et je voulais vous démontrer ça au moyen d'une expérience que nous avons réalisée dans le laboratoire. Nous avons essayé de manipuler le flux sanguin d'un embryon d'oiseau que vous voyez ici couché sur son côté. Le cœur est ici, la tête est ici, et ceci c'est la grande artère du sac viétilin. Ce que nous avons fait avec cet embryon, c'est de soulever cette artère au moyen d'une petite pince métallique de façon à arrêter le flux sanguin dans toute cette branche de l'artère. Cette manipulation ne tue pas l'embryon car le sang peut toujours s'écouler vers l'artère contralatérale et va reperfuser maintenant ce système de façon inverse. Toute cette branche de l'artère de l'embryon va en un temps très court se connecter au cœur de l'embryon et va donc se transformer de façon morphologique en veine. Une simple manipulation du flux sanguin embryonnaire est donc capable de transformer morphologiquement, et nous l'avons démontré aussi génétiquement, une artère en une veine. Le flux sanguin est donc probablement très important pour positionner et déterminer l'identité des artères et des veines. Mais est-ce que ces mécanismes, l'oxygène et le flux, sont suffisants pour générer un système aussi complexe et aussi reproductible ? Une inspiration à ces questions est venue en fait en regardant un autre système embryonnaire qui est caractérisé par des similarités anatomiques très importantes avec le système vasculaire et qui est le système nerveux. Les deux systèmes en fait sont ramifiés dans tout l'organisme, comme Madame Le Douarin l'a déjà souligné. Les deux systèmes transmettent une information directionnelle. Il s'agit du flux artériel et veineux dans le système vasculaire et des voies sensorielles et motrices dans le système nerveux. Et finalement, les deux systèmes sont composés de deux types cellulaires intimement associés, les cellules endothéliales avec les cellules de la paroi des vaisseaux et les neurones et les cellules gliales. Des travaux effectués dans de nombreux laboratoires au cours des dernières années ont montré en plus qu'il existe des molécules de signalisation qui sont communes aux deux systèmes. Et nous nous sommes inspirés de cette observation pour la découverte suivante, qui est que plusieurs récepteurs initialement découverts dans le système nerveux, où ils agissent comme récepteurs aux facteurs de guidage des axones, s'expriment également dans le système vasculaire. Et dans certains cas, comme celui-ci, en fait, il s'agit toujours de grandes familles de molécules dont au cours de l'évolution, un membre a été coopté par le système vasculaire. Il s'agit donc de molécules initialement impliquées dans le guidage des axones, mais dont certains s'expriment de façon sélective dans le système vasculaire. Et dans le système vasculaire, ces molécules s'expriment dans des cellules très particulières situées à l'extrémité des capillaires. On appelle ces cellules des tip cells. Et ces cellules sont caractérisées en fait par des longs prolongements qu'on appelle des phyllopodes, qui sont riches en actine et qui peuvent polymériser ou dépolymériser et qui explorent l'environnement pour des molécules qui régulent la directionnalité de la croissance des capillaires. Donc l'observation que ces molécules initialement identifiées dans le guidage des axones s'exprimaient dans ces cône de croissance des cellules endothéliales suggérait que ces molécules pourraient éventuellement diriger la croissance des vaisseaux sanguins. Comment mettre en évidence ceci ? Nous avons utilisé une technique classique qui est de générer ou des souris knock-out, c'est-à-dire déficients pour le gène en question, ou alors des embryons de poissons zèbres dans lesquels on a inactivé le gène. Et vous voyez un tel poisson zèbre ici, ceci est un embryon contrôle, et en absence de ce récepteur particulier, ce qu'on observe, c'est une arborisation accrue des vaisseaux sanguins due à une extension extrêmement augmentée des phylopodes de ce type cells. Cette observation suggérait que le récepteur, en condition normale, en fait régulait négativement l'extension de ces phylopodes. Et on peut démontrer ça expérimentalement si on rajoute le ligand des récepteurs aux phylopodes, en fait on provoque leur rétraction. Comme vous voyez ici, dans le cerveau d'un embryon de souris cette fois-ci. En revanche, en absence du récepteur, l'ajout de ligand n'a plus aucun effet sur la rétraction de phylopodes. Il s'agit donc d'un récepteur qui contrôle le guidage des cônes de croissance des vaisseaux sanguins au cours du développement embryonnaire, et il s'agit d'un guidage répulsif. Quel est notre projet de recherche ? Nous nous intéressons de façon toute particulière à ces cônes de croissance des cellules endothéliales. Nous avons notamment identifié une mutation qui affecte l'identité de ces cellules, ce qui nous permet de les analyser en grande quantité et d'étudier la composition de leur transcriptome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes exprimés par ces cellules et qui régulent l'identité de ce type cellulaire. Deuxièmement, qu'est-ce qui régule de façon fine l'extension ou la répulsion de ces cellules, c'est-à-dire l'extension ou la répulsion des phylopodes. Et nous nous inspirons des modèles mis en place dans le système nerveux pour étudier ça au niveau du système vasculaire. Deuxième question, et peut-être la plus importante, est-ce qu'on peut utiliser les molécules que nous avons identifiées pour influer sur l'angiogénèse pathologique? En d'autres termes, est-ce que la manipulation de ces voies de signalisation permettrait de guider les vaisseaux sanguins vers un tissu ischémique ou loin d'une tumeur? Et nous étudions ça à l'exemple du couple ligand-récepteur que je vous ai présenté. Nos travaux ont permis d'émettre l'hypothèse que si on active ce récepteur, on devrait inhiber l'extension des phylopodes des capillaires et donc inhiber leur progression et le branchement des vaisseaux au niveau tumoral. Troisième question, plus fondamentale, quels sont les mécanismes régulant véritablement l'alignement des vaisseaux avec des nerfs au cours du développement embryonnaire? Donc ce que nous voudrions faire dans l'avenir, c'est de générer des souris qui portent des rapporteurs fluorescents dans les deux types cellulaires, les neurones et les cellules et les vaisseaux, et puis de suivre le développement de ces deux types cellulaires en utilisant une approche de microscopie biphotonique comme vous a été présentée par Monsieur Jean-Louis Martin ce matin. Et je voudrais très brièvement terminer par remercier l'ensemble des gens qui ont fait ce travail dans mon équipe et qui sont tous formidables, ainsi que nos collaborateurs nationaux et internationaux, et vous pour votre attention. Merci beaucoup.
Monsieur Éric Honoré a préparé sa thèse à l'Université de Lille, puis a effectué un séjour d'une année, de 1985 à 86, dans le département de physique de l'Université de Calgary au Canada. Ensuite, il est parti pour 2 ans à l'Université Rockefeller à New York. Revenu en France, il a été recruté au CNRS en 1991 comme CR1, puis a été promu DR2, directeur de recherche deuxième classe, en 1998. Il a rejoint tout d'abord le laboratoire du professeur Ladzinski à Sofia Antipolis et maintenant il dirige dans ce même lieu une équipe dont le thème de recherche porte sur les canaux ioniques dans le système vasculaire. Ceci au niveau des cellules endothéliales et aussi des muscles lisses de la paroi des vaisseaux. Ces systèmes sont d'une importance physiologique primordiale parce que ils régulent le flux sanguin que reçoivent nos organes par le jeu de la vasomotricité et que, d'autre part, ils sont responsables de la pression sanguine dans les vaisseaux. Il s'agit donc d'études qui portent sur la mécanoréception et la chémoréception, et il s'agit d'un travail d'équipe qui associe des approches de biophysique moléculaire in vitro Avec la physiologie qu'on peut qualifier d'intégrative, puisqu'elle est étudiée sur l'animal entier. On comprend que ces études sont importantes pour la connaissance de la physiologie vasculaire et aussi pour identifier des cibles pharmacologiques et thérapeutiques. Éric Honoré a conduit des travaux qui lui ont permis d'identifier et de cloner les gènes de plusieurs canaux ioniques dont il a pu montrer le rôle dans les phénomènes de vasoconstriction hypoxique, c'est-à-dire en absence d'oxygène, et d'hypertension artérielle pulmonaire. Il s'agit des canaux de la famille KV, KV2-1, KV9-3. Il a aussi révélé la structure d'autres canaux, mécanosensibles cette fois, de la famille TREC, TREC 1 et 2, ainsi que des canaux qui répondent au pH sanguin. Son travail a été publié dans des revues scientifiques très prestigieuses, comme Nature, Nature Neuroscience, PNAS, EMBO Journal. Il est régulièrement invité comme conférencier dans les grandes réunions scientifiques internationales. Récemment, il a été élu président des Gordon Research Conference sur la mécanotransduction aux États-Unis. Cette fonction démontre sa parfaite intégration et la reconnaissance dont il jouit auprès de la communauté scientifique internationale. Son projet est double. Il concerne la physiopathologie de la circulation cérébrale, d'une part, et la polykystose rénale, d'autre part. En ce qui concerne le premier projet, il va tenter de déterminer les bases moléculaires de la formation des anévrismes cérébraux, qui sont une cause de mort, vous savez, ou de maladies graves assez répandues dans la population. Les hypothèses de travail qu'il avance sont très originales et le projet concerne par conséquent un problème essentiel de santé publique qui aura des implications thérapeutiques évidentes. Il ne fait aucun doute que les travaux d'Éric Honoré apporteront des données intéressantes dans ce domaine. En ce qui concerne la polykystose rénale, eh bien, on sait maintenant que ce projet porte sur l'étude d'un complexe récepteur couplé à un canal ionique qui forme ce que l'on appelle les polycystines 1 et 2. Des mutations dans ces polycystines existent chez l'homme et elles sont responsables d'une maladie héréditaire redoutable. Par conséquent, il s'agit là aussi d'un sujet qui a à la fois un intérêt fondamental et un intérêt thérapeutique possible, un intérêt médical. Par conséquent, nous allons écouter avec plaisir ce que Monsieur Éric Honoré a à nous dire de ses travaux et de son projet.
Donc, ce travail concerne les canaux ioniques. Auparavant, donc, Madame Le Douarin a mentionné que j'ai effectué un stage à l'université de Rockefeller à New York, et déjà à l'époque, ce stage avait été financé par la Fondation Del Duca en 1995 et 1996. Et tout à l'heure, quand j'ai vu les embryons de Xenops se diviser, j'ai une petite émotion parce que c'est ce que j'ai fait en fait pendant 2 années, essayer de cloner des gènes impliqués dans l'induction neurale et dans la migration des neurones au cours du développement. Donc, nous allons maintenant passer au domaine des canaux ioniques. Alors, les canaux ioniques sont des protéines transmembranaires, ce sont des pores qui vont permettre le passage sélectif de certains ions. Alors, on va distinguer des canaux sélectifs aux ions sodium, il y a donc une structure dans la protéine qui est responsable de cette perméabilité sélective. Ce travail a été récompensé il y a 5 ans par le prix Nobel de Monsieur McKinnon, qui a déterminé la structure tridimensionnelle d'un canal ionique, le canal potassium bactérien KCSA. Et en fait, l'activité électrique de base d'une cellule, ce que l'on appelle le potentiel de repos, est essentiellement due à l'activité de certains canaux potassium. La cellule est polarisée à un potentiel négatif, environ, par exemple pour une cellule cardiaque, environ moins 60 ou moins 80 millivolts, par rapport au zéro est indiqué par cette ligne pointillée. Certaines cellules ont la capacité de déclencher une réponse électrique, on appelle ça un potentiel d'action. Le sodium rentre dans la cellule, l'influx d'ions chargés positifs induit une dépolarisation, et quand on parle de dépolarisation, on parle d'augmentation d'excitabilité cellulaire. Cette augmentation d'excitabilité cellulaire, bien entendu, va déclencher des réponses cellulaires, par exemple la neurosécrétion, la production d'un neurotransmetteur dans le cerveau, ou encore la contraction d'une cellule musculaire comme le cœur ou le muscle squelettique. Cette réponse cellulaire est en fait induite par l'entrée d'ions calcium dans la cellule, toujours au travers de canaux ioniques sélectifs aux ions calcium. La cellule est donc dépolarisée pendant environ 200 millisecondes. On appelle cela le plateau de dépolarisation du potentiel d'action, et donc la réponse cellulaire est déclenchée. Et ensuite, le problème, eh bien, c'est de revenir graduellement au potentiel initial polarisé de la cellule. Et donc, ceci est réalisé grâce à l'ouverture de nouveau de canaux potassique. Donc mon travail, le travail tout au moins que je vais vous présenter aujourd'hui, concerne essentiellement la physiologie moléculaire de ces canaux potassium. Donc les canaux ioniques, vous l'avez déjà tous compris, eh bien sont des acteurs prépondérants dans le contrôle de l'électrogénèse cellulaire, mais aussi ils jouent d'autres fonctions biologiques tout à fait importantes. Par exemple, au niveau des épithéliums, dans le rein, eh bien les canaux ioniques vont permettre le transfert d'une espèce ionique d'un compartiment vers un autre compartiment. Par exemple, la réabsorption du sodium ici, à partir du compartiment urinaire vers le compartiment sanguin. Inversement, le potassium ici sera sécrété vers le compartiment urinaire. Donc des fonctions importantes, des fonctions physiologiques, et donc il existe une diversité fonctionnelle importante de l'ensemble de ces canaux ioniques. Le mode d'ouverture et de fermeture dépend de plusieurs facteurs, par exemple le potentiel transmembranaire. La différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule va induire un changement conformationnel de la protéine et va permettre de passer de l'état fermé à l'état ouvert du canal, ou alors le calcium intracellulaire peut réguler l'activité de ces canaux, ou encore l'activité des protéines G et ainsi de suite. Donc réellement une diversité fonctionnelle extrêmement importante. En ce qui concerne les canaux potassium, le sujet donc de cette présentation, la diversité fonctionnelle est énorme et elle est bien entendu due à une diversité moléculaire assez incroyable, puisque dans le génome humain, déjà 78 gènes codant pour les sous-unités codant pour les canaux potassiques ont été identifiés dans les études génomiques. Globalement, on peut distinguer trois sous-familles structurales différentes. Vous voyez ici les segments transmembranaires, la membrane plasmique est ici, l'extérieur est ici, l'intérieur est ici. Donc les trois sous-familles sont différenciées par le nombre de segments transmembranaires, 2, 4 ou 6 pour les plus compliqués. Et vous remarquerez aussi cette structure que l'on appelle le domaine P, c'est le domaine pore, c'est le domaine qui va contrôler la sélectivité au potassium de ces canaux ioniques. Alors aujourd'hui, pour des raisons évidentes de temps, nous allons concentrer cette présentation sur cette sous-famille, le canal K2P, alors 2P puisqu'il y a deux domaines P. Et en fait, un canal fonctionnel est un assemblage dimérique de cette structure. On peut associer deux sous-unités identiques, un homodimère, ou alors on peut former un hétérodimère entre deux sous-unités différentes, et ceci va bien entendu aussi augmenter la complexité fonctionnelle de ces canaux ioniques. Alors, on va même restreindre un petit peu plus, on va parler essentiellement aujourd'hui de ce gène, ou de ces trois sous-unités, qui présentent en fait des propriétés fonctionnelles similaires. Nous appelons ça dans notre jargon les canaux de type TREC, canaux donc K2P. Et pour vous illustrer bien que chacune de ces sous-unités a un patron d'expression tout à fait spécifique. TREC ici sur une coupe coronale donc de cerveau de rat est exprimé dans cette structure. Vous voyez donc la tache sombre vous montre le niveau d'expression de l'ARN messager codant pour TREC. Et donc cette structure s'appelle le striatum. Ce sont essentiellement des interneurones GABAergiques inhibiteurs, donc très forte expression de TREC dans le striatum. Par contre, la sous-unité homologue TREC2 est absente, mais vous voyez ici ce fort marquage dans les parties postérieures du cerveau. Eh bien, ce sont les neurones granulaires du cervelet. Finalement, le cousin germain TRAC, lui, eh bien, est absent pratiquement au niveau du striatum. Peu d'expression au niveau du cervelet, mais vous voyez une très belle expression au niveau du cortex. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque type cellulaire a sa propre signature en canaux potassium. Et donc, cette expression différentielle des sous-unités va en fait conditionner la réponse électrique de chaque type cellulaire. que ce soit un neurone, un muscle squelettique ou une cellule du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier au canal TREC? En fait, le canal TREC est assez atypique en termes de ce que nous appelons dans notre jargon le gating, le changement de conformation, l'ouverture de la porte. Le contrôle de l'ouverture de cette porte, pour TREC, ce n'est pas le potentiel, ce n'est pas le calcium, mais c'est tout simplement la stimulation mécanique de la membrane. Il faut tirer sur la membrane de la cellule pour induire l'ouverture de ces canaux ioniques. Ici, l'état fermé. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a exprimé TREC dans des cellules, on a cloné le gène, on l'a exprimé de façon hétérologue, et puis on utilise une technique qui s'appelle le patch clamp. On vient coller une pipette de verre sur une seule protéine, sous contrôle microscopique. Donc, quand on a un peu de chance, on va isoler physiquement cette protéine du reste de la cellule. Donc, on est dans une configuration qui s'appelle configuration cellule attachée. Et donc, on peut enregistrer le changement de conformation entre l'état fermé et l'état ouvert. Vous voyez qu'à pression atmosphérique, ceci est le zéro, il n'y a aucune activité de TREC 1. Par contre, lorsque l'on vient d'appliquer une pression, ici moins 60 mm de mercure, ce que vous observez, c'est qu'il y a une activité très très rapide qui est induite par l'étirement, et cet effet est complètement réversible quand on arrête la pression. En fait, le canal passe très rapidement de l'état fermé à l'état ouvert. On a changement de conformation, on a passage d'un état conformationnel à un autre état conformationnel. On peut reproduire ce type d'activité même si on arrache le petit morceau de membrane. Ici, on est dans une configuration qui est dite de patch excisé. Le petit morceau de membrane est au bout de la pipette de verre. Il y a quelques canaux ici exprimés. Il y a plusieurs canaux dans cette membrane. Et de nouveau ici le zéro, pas d'activité. On tire sur la membrane, on ouvre les canaux. Ça, c'était le premier exemple en fait d'un canal ionique eucaryotique cloné et mécanosensible. Et vous voyez que la relation entre l'activité du canal et la pression est tout à fait dose dépendante, et ces canaux sont extrêmement sensibles à la stimulation mécanique, puisque ici, en l'occurrence, 50% des canaux sont ouverts à environ moins 35, moins 36 mm de mercure. Donc, TREC 1, un canal mécanosensible. Autre propriété intéressante, ce canal mécanosensible TREC 1 est aussi ouvert par des substances chimiques, en particulier les acides gras polyinsaturés. Un exemple ici avec de l'acide arachidonique, je pense que vous reconnaissez tous cette formule. Donc c'est un acide gras polyinsaturé, il y a des insaturations, et puis il y a une fonction carboxylique qui est chargée négatif. À ce niveau-ci, on applique l'acide arachidonique, donc là en absence de stimulation mécanique bien entendu, et on voit que les canaux TREC s'ouvrent, on le mesure par ce courant, on arrête la perfusion et les canaux vont se refermer. En fait, cette activation est spécifique des acides gras polyinsaturés. Un acide gras saturé, tel que l'acide arachidique, qui a exactement la même longueur ici, eh bien, n'a aucun effet, strictement aucun effet sur l'activation de TREC. En fait, ce que nous avons pu montrer, c'est que plus le nombre d'insaturations est important et plus l'activité du canal est élevée. Un exemple ici, c'est un acide gras qui se trouve dans les huiles de poisson. Vous savez que c'est bon de prendre de l'huile de foie de morue. Nos grands-mères nous ont dit ça. Eh bien, effectivement, TREC est ouvert par les acides gras des huiles de poisson. Autre paramètre important, eh bien, c'est la charge négative. Si on enlève cette charge négative avec cette substitution ici, eh bien, on perd complètement l'activité du lipide. Donc, acides gras polyinsaturés, charge négative, sont des ouvreurs du canal TREC 1. Donc, ce que nous avons essayé de comprendre, eh bien, c'était quel était le rapport, en fait, entre l'ouverture d'un canal mécanosensible par une pression mécanique et l'ouverture par les lipides cellulaires tels que les acides gras polyinsaturés. En fait, nous avons pu montrer, en utilisant différents types de démarches biophysiques et physiologiques, que les acides gras polyinsaturés, alors des composés en fait amphipathiques, qui ont à la fois un caractère hydrophobique et qui sont chargés, ici en l'occurrence négatif, eh bien vont de façon préférentielle s'insérer dans la bicouche, dans le feuillet externe de la bicouche lipidique. Vous savez que la bicouche lipidique est naturellement asymétrique en termes de charge négative, puisqu'il y a beaucoup plus de phosphatidylsérine dans le feuillet interne que dans le feuillet externe. Donc il y a une répartition différentielle des charges. Et si vous mettez un lipide chargé négatif, comme l'acide arachidonique, eh bien de façon préférentielle, il va s'intégrer sur le feuillet externe. Et cette intégration différentielle dans le feuillet va créer une tension dans la membrane et va induire un changement de la courbure de la cellule. Alors c'est, tout à l'heure, on a vu lors du premier exposé des photographies de globules rouges, les érythrocytes. Tout le monde reconnaît cette forme discoïde tout à fait typique. Et voici ce qui se passe lorsque l'on ajoute de l'acide arachidonique. Une minute après l'ajout d'un micromolaire d'acide arachidonique, ce sont des très faibles doses, et on voit que la forme du globule rouge a complètement changé. Donc l'acide gras est capable de s'insérer dans la membrane, de générer une tension et de changer la courbure membranaire. Et nous pensons que c'est la raison pour laquelle les acides gras polyinsaturés sont des ouvreurs du canal tréquin. Donc pour conclure sur ce canal tréquin, en fait tréquin est donc un canal ionique potassique polymodal puisqu'il peut être ouvert par des stimuli physiques comme la pression, la stimulation mécanique, mais nous avons pu montrer aussi qu'il est sensible à la chaleur, qu'il est sensible à l'acidose intracellulaire. Nous avons identifié tous les sites moléculaires qui permettent d'ouvrir ou de fermer ce canal. Et puis, d'autre part, tréquin est aussi extrêmement sensible à la stimulation chimique, en particulier par les lipides, les acides gras polyinsaturés. Nous avons pu aussi montrer dans d'autres travaux, eh bien, que les anesthésiques généraux volatiles, qui sont aussi des composés extrêmement hydrophobes, eh bien, sont des puissants ouvreurs du canal tréquin. Nous avons inactivé le canal tréquin chez la souris, nous avons donc généré un animal knockout, et donc cet animal présente une hypersensibilité à l'ischémie cérébrale et à l'épilepsie. D'autre part, ces animaux sont aussi, présentent aussi une hypersensibilité aux stimuli douloureux. Donc un rôle important de tréquin au niveau neurosensoriel. Finalement, au niveau pharmacologique, ce que nous avons pu montrer, c'est que l'effet neuroprotecteur des acides gras polyinsaturés est perdu chez les animaux où le gène a été inactivé, et que ces animaux, de plus, présentent une sensibilité extrêmement réduite aux anesthésiques généraux volatiles. Donc l'expression de tréquin dans le cerveau et l'ouverture de ce canal par ces composés a donc un rôle important en termes de pharmacologie. Alors le projet de recherche défendu concerne une autre classe en fait de canaux ioniques mécanosensibles, ce sont les polycystines. Alors les polycystines, vous savez que les gènes codant pour les polycystines sont mutés, il y a des mutations, pertes de fonction de ces gènes et qui vont malheureusement induire une maladie extrêmement grave qui est la polykystose rénale autosomique dominante. Vous voyez le rein d'un patient sain et voyez ce qui se passe malheureusement chez un patient atteint de cette maladie. Donc c'est caractérisé par la formation d'énormes kystes au niveau des cellules épithéliales qui va produire une énorme hyperplasie et à terme donc la maladie est létale. Et le seul recours thérapeutique, bien entendu, c'est la greffe de rein ou éventuellement la dialyse. Ces polycystines sont exprimées en fait sur une structure particulière au niveau des cellules épithéliales, ce qui est appelé le cil primaire des cellules épithéliales. Il y a un seul cil par cellule et l'activité de ce cil en fait est requise pour la mécanotransduction épithéliale. Le cil en fait est stimulé par le flux urinaire, cela permet d'activer le complexe récepteur canal ionique polycystine 1 et polycystine 2 et ainsi de générer un influx calcique dans la cellule. Et la perte de fonction de ce système crée cette maladie. D'autre part, il existe aussi, malheureusement, chez ces patients, en plus du problème rénal, de graves lésions cardiovasculaires, en particulier la formation et la rupture des anévrismes de la circulation cérébrale. Ici, vous voyez chez une souris l'expression de la polycystine 1 au niveau du cerveau, et on voit une très très nette expression visualisée en bleu de cette polycystine dans les artères cérébrales.
Alors, Monsieur Bruno Bontempi travaille dans le laboratoire de neurosciences cognitives du CNRS de l'Université de Bordeaux-1, où, au début de sa carrière, il avait préparé sa thèse. Entre ces deux périodes, il a séjourné 10 ans aux États-Unis, où il a successivement effectué un stage postdoctoral à l'Université de San Francisco dans le laboratoire du professeur Charles. Puis il a travaillé comme chercheur dans le département de pharmacologie des laboratoires Cibia à La Jolla et dans les laboratoires Arena Pharmaceutical à San Diego. C'est donc muni d'une double formation de recherche dans les laboratoires universitaires et dans des laboratoires de l'industrie pharmaceutique qu'il est revenu en France où il a été engagé comme CR1 au CNRS. Il est maintenant responsable d'une équipe dont le thème de recherche concerne l'étude des processus mnésiques de la mémoire et de la dynamique des interactions entre l'hippocampe et le cortex cérébral. Ces travaux sont centrés sur l'étude de la dynamique et de fonctionnement de l'interface qui existe entre l'hippocampe et le cortex au cours du stockage et du rappel d'informations spatiales et non spatiales chez le rongeur, ainsi que sur leurs applications au vieillissement normal et pathologique. L'équipe de Bruno Bontempi s'intéresse tout spécialement à la manière dont la mémoire à long terme est organisée dans le cortex cérébral, ainsi qu'aux événements moléculaires et cellulaires qui sous-tendent sa consolidation. Il travaille chez les rongeurs et s'attache à étudier la dynamique temporelle de réorganisation des interactions entre l'hippocampe et le cortex au cours du stockage. Pour cela, il étudie et il utilise des techniques d'anatomie et d'imagerie cérébrale fonctionnelle, faisant intervenir la mesure du métabolisme cérébral, l'expression de gènes d'activité neuronale, la modélisation structurale des interactions neuronales. Mais il utilise aussi des approches invasives qui consistent à manipuler l'activité de réseaux neuronaux spécifiques par des injections intracérébrales d'agents pharmacologiques, d'oligonucléotides antisense par exemple, puis à en mesurer les conséquences sur l'acquisition de la mémoire. Enfin, une approche plus appliquée des phénomènes cognitifs est aussi développée avec l'industrie pharmaceutique par ce groupe dans le but d'évaluer l'efficacité thérapeutique de nouveaux traitements visant à traiter certaines pathologies de la mémoire. Il a aussi participé à des activités de valorisation par l'élaboration d'une batterie de tests informatisés pour l'évaluation des capacités cognitives chez l'homme. Monsieur Bruno Bontempi est auteur de plusieurs publications dans les meilleures revues internationales sur le rôle transitoire de la formation hippocampique au cours des processus de consolidation mnésique. Les projets de son groupe portent sur les bases moléculaires de la mémoire à long terme. Il est évident que cette thématique est d'un très grand intérêt dans le contexte du vieillissement de la population humaine et de ses répercussions sur les processus mnésiques. Je donne la parole à Monsieur Bontempi pour nous exposer son travail.
Merci Madame Le Doirin pour cette présentation. Et je souhaiterais tout d'abord, je suis tout d'abord très honoré d'avoir obtenu ce prix de la Fondation Simone et Sinodel Ducat. Et je souhaiterais bien sûr remercier donc la Fondation, l'Institut de France et les membres de l'Académie des sciences. J'aimerais également vous remercier au nom des membres de mon équipe et également au nom des membres du laboratoire de neurosciences cognitives à l'Université de Bordeaux, dont le directeur est Georges Discala. Donc, comme Mme Le Doirin vous l'a dit, nous allons changer de sujet et aborder la mémoire. Donc, pour introduire la problématique de recherche de notre équipe, j'ai sélectionné une série d'images qui représentent des faits et des événements qui se sont passés au cours du siècle dernier. Certains de ces événements sont récents, d'autres sont plus anciens, mais si je vous demande d'identifier ces événements, vous pourrez certainement le faire. Nous sommes donc tous d'accord pour admettre que notre cerveau est capable de former de façon durable des souvenirs. Mais il y a une série de questions qui demeurent. Quelles sont les structures cérébrales qui participent en fait au stockage à long terme et au rappel de ces souvenirs ? Et finalement, existe-t-il des interactions dynamiques entre les régions cérébrales au cours de la consolidation mnésique, qui est le processus qui permet la formation d'une mémoire à long terme stabilisée? Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons réalisé nos expériences chez la souris. Utiliser la souris comme animal d'expérience offre un certain nombre d'avantages. D'une part, des protocoles comportementaux fiables sont disponibles et le laboratoire à Bordeaux a une longue expérience depuis plusieurs dizaines d'années de ce type de protocole. L'autre avantage est que l'âge des souvenirs peut être rigoureusement contrôlé de façon prospective, ce qui est beaucoup plus difficile à faire chez l'homme, parce que toutes ces études portant sur l'amnésie s'appuient sur des questionnaires généralement rétrospectifs, et on n'a pas un bon contrôle du contenu des acquis. Et les interférences pendant les intervalles de rétention sont réduites. Bien sûr, on travaille chez l'animal et on a toute l'opportunité de les maintenir dans leur cage d'animalerie, ce qui est bien sûr impossible à faire chez l'homme. Et des souris mutantes, bien sûr, porteuses de modifications génétiques sélectives sont disponibles. Et ces souris mutantes représentent des outils fantastiques pour nous, pour justement étudier les mécanismes sous-jacents à la mémoire. Donc la mémoire est un processus complexe, comme vous le savez tous. Et elle peut être dissociée en plusieurs formes temporelles. On distingue d'une part la mémoire à court terme, où les informations peuvent être stockées de plusieurs minutes à plusieurs heures. une mémoire dite à long terme, où ces informations peuvent être stockées de plusieurs heures à plusieurs jours, et une mémoire dite ancienne, où ces informations peuvent être stockées de plusieurs jours à plusieurs mois, années, voire en permanence. Et donc, dans ce contexte, il a été proposé que le processus de consolidation mnésique était le processus permettant la formation d'une mémoire à long terme stabilisée. En d'autres termes, la mémoire passerait d'une forme initialement labile à une forme devenant progressivement stable. Si on s'intéresse au syndrome amnésique global qui résulte de la lésion de la formation hippocampique que vous avez représentée ici chez l'homme, on s'aperçoit qu'en fait, le syndrome amnésique global est caractérisé par une amnésie antéro-rétrograde. L'amnésie antérograde fait référence à l'incapacité à former des nouveaux souvenirs, alors que l'amnésie rétrograde fait référence à des pertes de souvenirs qui ont été acquis avant le début de l'amnésie. Chose intéressante pour l'amnésie rétrograde, elle est graduelle, c'est-à-dire qu'elle affecte de préférence le rappel des informations récentes, après une lésion ou une pathologie, mais elle laisse intact le rappel des informations anciennes, ce qui a permis certains auteurs de suggérer que la formation hippocampique aurait en fait un rôle temporaire dans le stockage à long terme des souvenirs. L'un des cas les plus célèbres d'amnésie rétrograde graduelle dans le domaine des neurosciences cognitives est le cas HM. Donc HM souffrait de crises épileptiques dont le foyer était localisé au sein de sa formation hippocampique que vous avez représentée ici en rouge, donc le lobe temporal médian. Pardon. Et donc à l'époque, il a été décidé, bien sûr, pour supprimer ces crises épileptiques, de pratiquer une ablation bilatérale de cette formation hippocampique. Donc l'opération fut un succès. HM n'avait plus de crises épileptiques, mais malheureusement pour lui, il a montré une amnésie rétrograde graduelle sévère qui a effacé à peu près tous ses souvenirs qui avaient été acquis 11 ans avant le début de l'opération. Donc sur la base de ce profil mnésique, il a été proposé un modèle standard de la consolidation. Pardon. Qui distingue deux phases, une phase de consolidation à court terme, également appelée cohésion, dans laquelle la formation hippocampique dialoguerait en fait avec le cortex dans le but de moduler les connexions hippocampo-corticales. Donc cette formation hippocampique aurait pour rôle de mettre en relation les informations qui ont été initialement enregistrées de façon distribuée au sein des différentes aires corticales. Et l'une des caractéristiques de ce modèle est que le changement dans la force des connexions entre l'hippocampe et le néocortex sont rapides mais de courte durée, alors que les changements dans la force des connexions synaptiques entre les aires corticales sont lentes mais de longue durée. Et donc il a été proposé que la consolidation des informations au niveau cortical s'effectuerait par un dialogue entre l'hippocampe et le néocortex dans le but d'augmenter progressivement la force et la stabilité des connexions cortico-corticales. Et avec le temps, le rôle de cette formation hippocampique diminuerait progressivement jusqu'à ce que le néocortex devienne à lui seul capable d'assurer le rappel des souvenirs anciens. Ce modèle a toutefois été remis en question pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est que l'ensemble des évidences qui supportent ce modèle ont été obtenues à partir d'approches invasives qui ont consisté à léser de façon complète ou partielle la formation hippocampique. Le problème avec ce type d'approche, c'est que les conclusions ne renseignent en aucun cas sur le statut réel de l'information au sein de la formation hippocampique. En d'autres termes, on peut toujours se demander ce que la formation hippocampique aurait fait si elle avait été fonctionnelle au moment du rappel. Et bien sûr, dû à ces lésions, il y a des phénomènes de vicariance, de réorganisation et de compensation fonctionnelle au sein des réseaux neuronaux associés aux approches lésionnelles. Pour toutes ces raisons, nous avons essayé de contourner ce problème. Et nous avons voulu évaluer la contribution de la formation hippocampique et des régions corticales au cours de la consolidation mnésique dans un cerveau intact. Pour cela, nous avons adapté à la souris la technique de marquage autoradiographique de l'activité métabolique cérébrale par le D2-oxyglucose, qui est marqué au carbone 14 et qui donc peut être suivi par autoradiographie. Et cette technique est en fait très similaire, vous la connaissez tous maintenant, cette technique est similaire à la tomographie par émission de positrons chez l'homme, qui permet d'évaluer la participation fonctionnelle des régions cérébrales, en d'autres termes, le cerveau au travail. À l'aide de cette technique, nous avons donc voulu cartographier et suivre dans le temps l'activité de l'ensemble des régions cérébrales qui étaient impliquées au cours de la consolidation mnésique. Dans une première série d'expériences, nous avons soumis nos souris à une épreuve de discrimination spatiale dans un labyrinthe radiaire à 8 bras. Donc ce labyrinthe radiaire est constitué d'une plateforme centrale d'où rayonnent 8 bras de façon symétrique. Et à l'extrémité de chacun de ces bras, on peut placer un appât. Et le but pour l'animal est de mémoriser la position spatiale d'un bras qui est toujours appâté en utilisant les repères spatiaux qui sont distribués autour du labyrinthe. Vous avez ici un exemple donc, de souris entrant un bras pour collecter la pastille de nourriture. Et le protocole que nous avons utilisé est le suivant. Les animaux ont été entraînés pendant 10 jours jusqu'à atteindre un critère et maîtriser la tâche. Et ensuite, nous avons interrogé ces animaux soit 5 jours après l'acquisition initiale, soit 25 jours plus tard, pardon, de façon à appréhender soit la mémoire des informations récentes, soit la mémoire des informations anciennes. Et le 2DG a été injecté immédiatement avant le début de chacune des séances de rétention. Vous avez ici rapidement les performances de ces animaux. Donc du 1er au 9e jour d'acquisition, vous pouvez voir une augmentation significative des réponses correctes. Donc les animaux atteignent un niveau de maîtrise de la tâche après 9 jours d'acquisition. Quand on les interroge 5 jours plus tard, le niveau de performance est similaire à celui atteint après 9 jours. Après 25 jours, il y a un petit oubli, mais ces animaux restent toujours, leur performance est toujours supérieure à celle du hasard. Et donc voici ce que nous avons obtenu. Vous avez ici un exemple d'autoradiorum couleur, obtenu à partir de coupes frontales de cerveaux de souris, donc qui ont été soumis à la tâche de discrimination spatiale, et dont les cerveaux ont été prélevés soit 5 jours, soit 25 jours plus tard. Et quand on passe du rappel d'un acquis récent à un acquis ancien, vous pouvez voir que nous avons observé une baisse significative de l'activité métabolique au sein de l'hippocampe, ici avec les champs C1, CA3 et le gyrus denté. Et en parallèle, nous avons pu observer une augmentation cette fois dans différentes régions corticales. Donc en fait, il y a une prise en charge corticale avec le temps, et notamment une augmentation d'activité métabolique dans le cortex singulaire antérieur ou le cortex frontal par rapport au délai de 5 jours. Chose intéressante, quand on demande à des animaux d'apprendre une nouvelle information, quand on les place dans un contexte différent, on peut voir que cette manipulation réengage l'hippocampe, montrant que cet hippocampe est nécessaire pour apprendre de nouvelles informations. Cette première série d'expériences nous a permis de montrer qu'il existe bien un dialogue temporaire entre l'hippocampe et les régions corticales, que, chose importante, le rappel des souvenirs stockés dans le cortex peut s'effectuer sans la contribution de la formation hippocampique. Et donc, nos données plaident en faveur du modèle standard de la consolidation mnésique. Et les augmentations d'activité métabolique que nous avons pu observer dans certaines régions, comme les régions frontales, singulaires et temporales, suggèrent en fait un rôle de ces régions dans l'accès et l'utilisation des informations stockées. Dans une deuxième série d'expériences, nous avons voulu voir si on pouvait généraliser ces résultats lors de l'utilisation d'une deuxième épreuve, qui est toujours une épreuve de discrimination spatiale, mais cette fois-ci dans un labyrinthe radiaire à 5 bras. Ce labyrinthe a été développé dans l'équipe par Thomas Durkin. Même principe, donc l'animal doit utiliser des repères spatiaux pour mémoriser la position spatiale d'un bras toujours appâté. Les animaux ont été entraînés pendant 10 jours, puis testés soit un jour plus tard, soit 30 jours plus tard, pour appréhender une nouvelle fois la mémoire des informations récentes ou anciennes. Et nous avons pu observer que le rappel d'informations récemment acquises s'accompagnait en fait d'une augmentation d'activité au sein de l'hippocampe et du cortex singulaire postérieur. Nous avons pour cela utilisé une approche immunohistochimique et nous avons cartographié l'expression de la protéine FOS qui est utilisée comme un marqueur d'activité neuronale. Par contre, le rappel des informations ancienne, c'est accompagné d'une augmentation de l'activité neuronale, notamment au sein du cortex singulaire antérieur. Vous voyez ici l'augmentation du nombre de noyaux FOS positifs chez les animaux expérimentaux par rapport à leurs témoins. Ces animaux témoins ont été placés dans l'appareil, donc toute chose est égale par ailleurs, mais nous n'avons ouvert qu'un seul bras, si bien que ces animaux n'avaient pas à faire de choix lors de la phase de rappel. Nous avons coupé cette approche à une approche invasive, puisque les approches par imagerie ne sont corrélatives. Donc nous avons effectué une inactivation spécifique des régions que nous avons observées. Et l'inactivation, par exemple, de l'hippocampe perturbe sélectivement le rappel des informations récentes, mais est sans effet sur le rappel des informations anciennes. À l'inverse, l'inactivation des régions corticales comme le cortex singulaire antérieur ou le cortex préfrontal perturbe spécifiquement le rappel des informations anciennes, mais laisse intact le rappel des informations récentes. Nous avons également observé d'autres phénomènes. Nous nous sommes demandé si cette réorganisation que nous avions observée au niveau cortical pouvait s'accompagner de changements structuraux au niveau des réseaux corticaux. Nous avons pour cela utilisé une protéine qui s'appelle Growth Associated Protein 43, donc qui est une protéine spécifiquement impliquée dans la croissance axonale et qui peut être utilisée comme un marqueur de la synthèse de nouvelles synapses, donc un processus de synaptogénèse. Et nous avons pu observer au fur et à mesure du temps et donc du stockage des informations dans le cortex singulaire antérieur une augmentation de l'expression de la protéine GAP43 que vous avez représentée ici en vert, en fluorescence, et noyaux apparaissant en bleu. Nous avons également observé des réorganisations laminaires, notamment au sein du cortex pariétal, avec une participation prépondérante des couches 5 et 6 lors du rappel d'informations récentes, et une réorganisation avec une participation prépondérante, cette fois des couches 2 et 3 lors du rappel d'informations anciennes, montrant que ces couches participent au stockage des informations anciennes. Chose qui nous a interpellé, c'est qu'en fait, non seulement je viens de vous dire que nous avions observé un désengagement au cours du temps de la formation hippocampique, mais nous avons pu observer qu'en fait, ce désengagement était significativement inférieur à celui observé chez les animaux témoins qui avaient été placés dans l'appareil. Ceci nous a suggéré que, en fait, il pouvait même exister une espèce de boucle de rétroaction corticale qui pourrait en fait contrôler l'activité hippocampique. pendant le processus de consolidation mnésique. Ceci nous a conduit à proposer un modèle qui confère au cortex préfrontal un rôle privilégié dans la consolidation mnésique. Donc, lors d'un apprentissage, l'hippocampe jouera un rôle crucial pour intégrer les informations en provenance des différents modules corticaux. Donc, cet hippocampe va fusionner ces différents éléments d'information pour donner au souvenir une forme cohérente. Avec le temps, comme je vous l'ai dit, comme le suggère le modèle standard et comme le suggèrent nos propres données, cet hippocampe, l'activité de cet hippocampe diminuerait. Et donc, le rôle intégrateur initialement joué par l'hippocampe serait maintenant joué par le cortex préfrontal. Et ce cortex préfrontal pourrait également moduler en fait l'activité hippocampique au moment du rappel. Dans une situation de concordance, donc de match, si les informations sont déjà stockées au niveau cortical, le cortex préfrontal inhiberait l'activité hippocampique, et cela pour empêcher le traitement et l'encodage d'informations redondantes. En l'absence de cette situation de concordance, donc dans une situation de mismatch, où l'animal, par exemple, doit apprendre de nouvelles informations ou alors a oublié certaines informations qu'il avait acquises précédemment, il n'y aurait plus cette inhibition et l'hippocampe serait réengagé de façon habituelle. Donc, en conclusion générale, nos données qui ont utilisé des approches multiples. D'abord, l'approche par imagerie nous a permis de montrer que le processus de consolidation s'accompagne d'un recrutement progressif des régions corticales, de régions corticales spécifiques. Et je voudrais insister sur le fait que le cortex ne doit plus être vu comme un simple site passif de stockage, mais qu'il est capable d'activement moduler l'activité hippocampique en fonction des informations déjà stockées. Alors, je ne vous en avais pas parlé, mais les changements au niveau cortical peuvent être bloqués par une mutation qui perturbe le rappel des informations anciennes. En fait, nous sommes intéressés aux bases moléculaires de la mémoire à long terme. Et nous avons ciblé une protéine qui s'appelle la protéine kinase de type 2, qui est dépendante de la calmoduline. Et en fait, cette protéine joue un rôle crucial dans les phénomènes de plasticité. Et nous avons donc créé des souris mutantes spécifiques. Et nous avons pu montrer que ces souris étaient donc, d'une part, incapables de montrer des changements de plasticité au niveau cortical et incapables de former de former des souvenirs à long terme. Donc l'approche pharmacologique nous a permis de montrer que une activation spécifique de régions identifiées peut perturber la mémoire des informations anciennes, mais pas celle des informations récentes, en l'occurrence pour le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal. Et donc l'approche génétique dont je viens de vous parler nous a permis de montrer que des modifications de plasticité corticale sont nécessaires pour la formation et le maintien de souvenirs durables. Et la protéine kinase de type 2, qui est dépendante du calcium et de la calmodulinine, est en fait nécessaire à la maturation et à l'élaboration des réseaux corticaux qui sous-tendent la mémoire des informations anciennes. Voilà, je voudrais finir par remercier les personnes qui ont rendu ce travail possible, notamment au sein du laboratoire en neurosciences cognitives, Catherine Laurent-Demire, Frédéric Menzaghi, Claude Destrade et Robert Jaffard, ainsi que les membres de mon équipe, Tom Durkin, Stéphanie Allot, Olivier Rogobo, Edith Lesburger et Thibaut Maviel, ainsi que nos collaborateurs à l'Université de Californie à Los Angeles, Paul Franklin, Lynn Talton et Alcino Silva. Je vous remercie pour votre attention.
Vous venez d'écouter les exposés des quatre lauréats du prix scientifique de la Fondation Simone et Sino Del Duca, la grande lauréate de ce prix, et je vous le rappelle, Geneviève Almouzni. Pour en savoir plus sur son domaine de recherche, vous pouvez vous connecter au site internet www.epigenome-noé.net. Suite à son intervention, vous avez pu également entendre trois autres scientifiques, à savoir Anne Ekman, Éric Honoré et Bruno Bontempi. Merci de nous avoir suivi, merci d'être sur Canal Académie. Au revoir et à bientôt.